Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Parole de Dieu ce soir dans Marc. Chapitre 1. Je vais vous remercier aussi pour les jeunes qui sont venus avec nous deux semaines en France. On les a pressés comme des citrons. Ils ont fait un petit peu les fous aussi, là, sortir à Paris jusqu'à tard le soir. Là, c'est le pasteur jeunesse le plus cool que je connais, qui fait du vélo à 1h du matin dans les rues de Paris. On dira pas ça aux adultes de l'église. Alléluia. Mais je veux vraiment vous remercier les jeunes qui sont venus. Ça a été super. On a vraiment gardé un très, très bon souvenir. J'ai des commentaires. J'ai des gens vraiment qui ont été touchés par votre passage, qui ont été vraiment bénis. Il y a des gens qui se sont vraiment approchés de Dieu. Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Mon cœur, les jeunes, ce soir, en plein cœur de l'été, en pleine vacances, et ne le dites pas à ma femme, je suis en vacances. Je suis présentement en vacances. Je suis pas supposé être ici. Je suis en vacances. Mais mon cœur brûle. Il y a vraiment une pensée extraordinaire qui est sur mon cœur ce soir. Elle est tirée de Marc, le premier chapitre. On va la lire dans un instant. Je suis, mon cœur est en flamme, mon cœur est dans la joie, mon cœur est excité. Je sens, je veux pas vous booster, je veux pas vous pomper, je veux pas essayer de créer une vague par les forces humaines. Je suis profondément convaincu dans mon être intérieur, dans mon fort intérieur, dans mon esprit, que le Seigneur Jésus est en train de faire quelque chose mondialement. J'en suis profondément convaincu et je pense que tu peux entrer dans ce que Dieu fait. On va prier maintenant et le titre de mon message est celui-ci. Je répands mon esprit. Hallelujah. Seigneur, je te demande de venir ce soir alors que je partage une pensée bien simple, Seigneur, que tu as mise sur mon cœur, Seigneur. Viens toucher les cœurs, Seigneur. Tu as dit que tu allais faire pénétrer la sagesse dans notre cœur. Tu as dit, je la ferai pénétrer dans ton cœur. Et la sagesse, nous le savons, c'est Jésus-Christ, Seigneur. Hallelujah. L'apôtre Paul a dit qu'il prêchait Jésus. Et Seigneur, je te remercie ce soir parce que tu dis dans ta parole que ta sagesse, ta parole, ton fils Jésus a une voix et que sa voix est dominante sur le tumulte et qu'elle nous lance un appel. Peu importe toutes les voix qui peuvent être ici ce soir, il y a des voix dans la pensée des jeunes, il y a toutes sortes de voix, de bruits parfois qui viennent dans notre tête, qui tournent à droite, qui tournent à gauche. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui nous dérangent dans une réunion. Seigneur, peut-être qu'il y a des jeunes qui sont ici, qui regardent un homme, qui regardent à un étranger, qui ne me connaissent pas du tout, qui se demandent, mais qui est cette personne? Seigneur, au-delà de tout ça, même au-delà de ma voix, ta parole dit que tu viens au-delà de tous les bruits qu'il peut y avoir. Ta parole dit que même tu parles plus fort que tous les bruits de la ville, Seigneur. Ta parole se rend au cœur et nous touche ce soir. Dans le nom de Jésus, je prie que tu fasses une œuvre qu'aucun homme ne peut faire, que je ne peux pas faire, Seigneur, que seul ton esprit puisse faire ce soir. J'ai la foi, Seigneur. Je crois. Tu dis dans ta parole que nous avons reçu l'onction de Dieu par la foi. L'onction, c'est l'esprit, c'est la présence, c'est la puissance de Dieu. Et je veux croire ce soir. Tu appelles ça toi-même, oh Dieu, la folie de la prédication. On ne comprend pas pourquoi, mais alors qu'un homme bien indigne, bien imparfait, bien faible en lui-même, se lève et prêche la parole que tu as brûlée dans son cœur. Des vies sont transformées. Et Seigneur, on veut le croire ce soir dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Hallelujah. Le titre de mon message ce soir est celui-ci. Je répandrai mon esprit. J'ai prêché le week-end dernier à Longueuil, un rassemblement de jeunesse à mon ancien groupe de jeunes, mais aussi d'autres jeunes qui étaient là, qui s'intitulait « Je répandrai mon esprit ». C'était la troisième partie. Ce soir, c'est la quatrième partie d'un message qui m'interpelle beaucoup, beaucoup personnellement. Je suis très, très attiré par ce sujet du Saint-Esprit. Si vous n'étiez pas là la semaine passée, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui étaient là, je ne vais pas faire une récapitulation de tout ce que j'ai dit, mais je veux seulement dire ceci ce soir. Lorsqu'on étudie les Écritures, on découvre que dans les derniers temps, à plusieurs endroits où la parole dit que les derniers temps vont venir, il est mentionné en même temps, les derniers temps, le Saint-Esprit, les derniers temps, le Saint-Esprit. Des temps difficiles, le Saint-Esprit va venir. Si je peux m'exprimer comme ceci ce soir, j'aimerais utiliser peut-être même un peu plus l'expression « l'Esprit de Dieu ». Dans l'Ancien Testament, ça dit que des jours difficiles vont venir, mais que l'Esprit de Dieu va venir pour fortifier, pour équiper, pour soutenir, pour placer debout, pour mettre une colonne vertébrale dans le cœur de ceux qui lui appartiennent. Et je sais, parce que j'ai grandi dans l'Église, parce que ça fait des années que je suis dans l'Église, que j'ai été dans différents milieux chrétiens. On travaille en France, ceux qui ne me connaissent pas, ça fait maintenant 2 ans qu'on est là-bas. Ma femme et moi, je suis évangéliste, je tourne presque tous les week-ends dans des églises différentes. On a travaillé avec près de 7-8 dénominations, groupements d'églises différents. On est ouvert à plusieurs familles d'églises où Dieu vraiment agit. Ça fait des années aussi que je grandis dans l'Église et je sais de quoi je parle ce soir. C'est un sujet qui je me sens comme un enfant dans ce sujet du Saint-Esprit, mais je comprends le contexte dans lequel je le présente ce soir. Je sais que l'Esprit de Dieu a fait les frais pendant plusieurs années de toutes sortes de mauvais courants de pensée, de toutes sortes de déviations que certaines personnes, sous prétexte de l'Esprit de Dieu, ont fait entrer des folies dans l'Église du Seigneur Jésus. Et j'aimerais vous dire ceci ce soir. Je crois malgré tout ça. Je crois malgré que le fait que des gens ont été brisés, des gens ont été déçus, des gens se sont éloignés de Dieu en voyant des choses qui déshonoraient le Seigneur au nom du Saint-Esprit prendre place dans l'Église. Certains se sont éloignés de Dieu. Je suis profondément convaincu que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Pendant certaines années même, je vous parle avec mon cœur un peu ce soir, pendant certaines années, le sujet d'être rempli du Saint-Esprit, le sujet de Dieu qui allait répandre son esprit était un sujet qui était évité. C'est un sujet qu'on n'osait pas trop aborder parce qu'on avait peur de choquer les gens, on avait peur de qu'est-ce que les gens allaient dire, on avait peur de toucher à des anciennes blessures. Mais j'aimerais vous dire ceci. Même s'il y a eu toutes sortes de mauvais courants, je crois profondément que dans les derniers temps que nous vivons, Dieu a quand même une promesse pour chacun d'entre nous. Il a dit qu'il allait répandre son esprit, qu'il allait envoyer une force, qu'il allait envoyer un aide. La Bible l'appelle un esprit de sagesse. Et c'est incroyable, dans les 4-5 derniers mois où j'ai été, à plusieurs endroits, j'ai vu des serviteurs de Dieu, des hommes, des femmes, des jeunes, des pasteurs et des gens qui ne sont pas pasteurs dans des églises, qui ont une faim personnelle dans leur vie d'étudier le Saint-Esprit, d'étudier le sujet de l'Esprit de Dieu. Je prends par exemple un pasteur en France où je suis allé au printemps dans le sud de la France, une très, très, très belle ville, Antibes, sur la Côte d'Azur, tout ça. Mais inquiétez-vous pas, j'ai même pas le temps de voir la plage, je faisais que des réunions. Et puis, je parle avec le pasteur et les gens viennent me dire, « Christian, c'est incroyable ce que tu as prêché durant tout le week-end, c'est ce que notre pasteur a prêché dernièrement. Je parlais même avec le pasteur qui me dit, « Christian, c'est incroyable ce que tu as partagé. Tu as dit des versets, tu as été creusé, cherché des versets, des textes dans la parole de Dieu, que moi-même, il était ému, j'étais ému ensemble, on parlait ensemble, on s'est dit, « C'est incroyable, Dieu est en train de faire quelque chose. » À l'autre bout de la planète, il y a des hommes de Dieu qui ont faim de Dieu, qui veulent aller plus loin, qui réalisent qu'on est en train de vivre dans les derniers temps, qui réalisent que les nations sont en train de s'assembler, qui réalisent que sur le plan politique, économique, et sur le plan de la météo, sur le plan sur plusieurs plans autour de nous, vraiment, on est en train d'aller vers les derniers temps, et qui tournent leur cœur vers Dieu, qui deviennent sérieux avec les choses de Dieu, qui ont une nouvelle faim, une nouvelle soif, des serviteurs de Dieu qui se réveillent à la prière, à la consécration, des chrétiens qui se tournent vers la parole de Dieu comme jamais. Ils ont faim, ils ont soif de Dieu. Ils sentent que Jésus revient. Il est temps d'être sérieux avec Dieu. Je parle avec le pasteur de l'église de Melville, pasteur Claude, qui, je crois, c'est dimanche dernier ou ce dimanche, entame une série sur l'Esprit, le Saint-Esprit. Vendredi soir dernier, je prêchais sur le Saint-Esprit. On parlait ensemble. J'étais dans son bureau, j'ai dit, c'est incroyable. Comment Dieu semble diriger plusieurs de ses serviteurs partout dans le monde sur l'importance de son Esprit dans les temps que nous vivons. Un homme qui aura marqué l'histoire du christianisme, bien certainement, est le frère David Wilkerson à New York, qui est aujourd'hui à 77-78 ans, et qui, je ne le connais pas, c'est pas un ami proche du tout, je le connais très, très, très peu, mais j'ai eu l'occasion à quelques reprises de le côtoyer un petit peu, de parler avec lui. Et lorsqu'il est venu ici à la conférence sur la francophonie, j'ai passé un petit moment avec lui. Il me disait, à cause de la maladie de sa femme, il me disait, Christian, je pense que je vais arrêter de faire des conférences. Il fait des conférences partout dans le monde, des milliers de personnes qui viennent. Il me dit, Christian, je pense que je vais arrêter à cause de la maladie de ma femme. Ce que je vous dis là, c'est pas confidentiel. Il l'a dit même publiquement, tout ça. Et tout à coup, il y a eu comme un retour, comme un regain. Et il a dit à son équipe, on était chez sa secrétaire le week-end dernier, mon épouse et moi, on était à New York, je suis allé faire il y a quelques temps, il y a 2 semaines de ça, on a fait un rassemblement de jeunesse là-bas, et j'étais dans le salon chez sa secrétaire en plein Times Square, elle me disait, pasteur Christian, c'est incroyable, à 78 ans, malgré sa santé, malgré sa femme, malgré tout, il a comme un regain, il a comme un feu qui monte en lui, de parler de l'Esprit de Dieu, et il veut repartir, encore prêcher, et dimanche dernier, il prêchait, ils ont eu une visite extraordinaire, extraordinaire de l'Esprit de Dieu. Et si vous connaissez un petit peu cette église, c'est une église où tout est très clockwise, tout est bien dans l'ordre. Et je crois que dans le ciel, il y a de l'ordre. Je crois que dans l'église, il doit y avoir de l'ordre. Et je crois que dans nos cœurs, il doit y avoir de l'ordre. Et je crois que dans notre chambre à coucher, il devrait y avoir de l'ordre. Ça, c'est une autre histoire. Et le frère Wilkerson, à 78 ans, une visite de Dieu le dimanche matin, la réunion ne termine pas, la réunion enchaîne dans la réunion de 15 heures, qui enchaîne dans la réunion de 18 heures, et des gens sont restés dans la maison de Dieu jusqu'à 22 heures le soir, dans un ordre, dans une gloire, dans une présence, dans une majesté de Dieu. Je suis profondément convaincu, les jeunes, que nous sommes vraiment, que le Seigneur accélère le pas vers la fin, mais que dans ces derniers temps, le Seigneur veut attirer nos vies, veut attirer nos cœurs à un sérieux, à une révérence vers sa majesté, vers l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, qui il est vraiment? Et j'ai pas le temps ce soir de vous expliquer un peu qui il est. J'en ai parlé un tout petit peu vendredi dernier. Et si vous voulez, ça va être sur Internet bientôt. Pasteur Mathieu dit aussi qu'il y aura le CD, que vous pouvez vous procurer le message la semaine dernière. Vraiment, j'ai pris un peu le temps d'expliquer qui est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, les jeunes, c'est Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est la pensée de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Comme toi, tu as un esprit, Dieu a un esprit. Comme toi, tu as un cœur à l'intérieur de toi, Dieu a un esprit. C'est son esprit. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, c'est la pensée, c'est le cœur de Dieu. C'est qui il est. Et quand Dieu dit dans les derniers temps, « Je répandrai mon esprit », en d'autres mots, il dit, « Je viendrai moi-même. Je me déverserai en toi. » Je me répandrai dans ton cœur. Je veux te remplir. Et ce soir, j'aimerais attirer votre attention sur un texte très, très, très important sur le Saint-Esprit dans Marc, le chapitre 1er. Combien d'entre vous êtes venus ici ce soir avec une Bible? Levez votre Bible ce soir. J'aimerais voir votre Bible. C'est très, très important de venir à l'église avec une Bible. Je suis fier de toi, Philippe. Ah ouais, tu l'as prêté à quelqu'un. Oui, oui, oui. Hallelujah. Marc, chapitre 1, un verset que vous connaissez très, très bien. La Bible dit dans Marc chapitre 1, Jésus, c'est son baptême d'eau. On ne prendra pas le temps de tout expliquer ce soir, vous connaissez sûrement bien cette histoire. Marc 1, 10 nous dit ceci. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit, donc littéralement ici l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, comme une colombe, descendre sur lui. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendit comme une colombe sur lui. Moi, j'ai grandi dans l'Église. Je connais cette histoire depuis ma petite enfance. Et je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que Dieu est venu comme une colombe? J'ai essayé d'interpréter, j'ai essayé de trouver par moi-même, j'ai même prêché des trucs que j'étais en les prêchant. Je n'étais pas super convaincu que c'était la pensée de Dieu, mais je trouvais ça bon ce que je disais, fait que je l'ai dit quand même aux jeunes, mais était-ce vraiment une révélation? C'est une grande question. Pourquoi une colombe? De tout ce que Dieu... Et dernièrement, parce que je vous parle avec mon cœur ce soir, je suis profondément, personnellement en train d'étudier et d'avoir une quête comme jamais dans ma vie sur l'Esprit de Dieu. Qui est l'Esprit de Dieu? Je veux marcher avec lui, je veux entendre sa voix, je veux lui obéir, je veux qu'il me transforme, je veux qu'il me change, je veux qu'il passe à travers moi pour que des vies soient changées. J'ai soif de Dieu. Et dans ma quête et dans mon étude, je suis arrivé sur ce texte. Et voyez-vous, parfois, je vous dis ceci ce soir, si tu as faim de Dieu, Dieu va t'amener dans la parole. Mais alors qu'il va t'amener dans ta parole, la première chose souvent que Dieu fait, il te pose des questions. Pourquoi c'est là, ça? Puis tout à coup, tu te mets à poser des questions que tu ne t'es jamais posées. Tu es arrêté sur un verset que tu n'as jamais été arrêté, puis il ne faut pas que tu continues, il faut que tu restes là. Et la Bible, c'est comme un coffre-fort, c'est comme une voûte impénétrable. Et personne n'a le code. Personne ne peut l'ouvrir. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux interpréter comme tu veux, mais il faut quelque part un moment où, comme il est écrit, lors de la résurrection, la Bible dit que Jésus leur ouvrit l'entendement à ses disciples. Et ils comprirent. Et moi, j'étais chez nous, j'ai dit, Seigneur, je n'étais pas capable d'aller vers aucun autre verset. Je revenais tout le temps à ça. Ça me disait dans mon cœur, une toute petite voix, hein? Pourquoi tu penses une colombe? C'est bizarre, une colombe. Ça fait drôle, une colombe. Puis je commençais à réfléchir. Je dis, Seigneur, une colombe. Je veux dire, l'Empire romain avait comme symbole un aigle. L'Empire américain a comme symbole un aigle. Il me semble que un empire, un royaume. Ça doit avoir l'image. Les Babyloniens avaient le lion. D'autres, la Bible va nous parler de division. Un empire a comme symbole un ours. Un autre empire a le guépard. Des animaux, des prédateurs, des animaux de force, des animaux de puissance, des oiseaux de proie. Mais une petite colombe, un petit oiseau blanc, fragile, qui descend du ciel. Et l'empire de Dieu, parce que l'apôtre Paul va littéralement le dire comme ceci dans le grec, qu'il existe l'empire de l'Esprit de Dieu dans Romains. Et pourquoi, t'as-tu déjà posé cette question-là? Une colombe. Essaie de t'imaginer ce soir, pense un instant au sport. La plupart des équipes de sport ont souvent un sigle, hein, une icône, une image. Imagine-toi demain, moi je suis complètement décroché je commence à apprendre un petit peu le foot français là, mais je connais rien, je suis vraiment de plus en plus débranché des Canadiens de Montréal. Mais imaginez-vous le gérant des Canadiens de Montréal demain qui fait une conférence de presse et qui dit « on a une grande nouvelle à vous annoncer, les Canadiens de Montréal ça n'existe plus, maintenant on va appeler ça les Colombes de Montréal ». Imagine-toi là, conférence de presse avec un oiseau blanc. Sponsoré par le Vatican. C'est ça. C'est pas ça pour me moquer, mais imagine, ça fait bizarre. Imagine-toi un escadron de l'armée des marines américaines, un peloton de l'armée, de Rambo, une gang de commandos qui ont sur l'épaule une colombe. Nous, là, on est l'escouade tactique spéciale, les mission force incroyables, puis on est des colombes pour l'armée. C'est fou, hein? Ça sonne bizarre. Les seuls qui sont un petit peu bizarres quand même, c'est les alouettes de Montréal, c'est quand même des oiseaux. Mais imagine-toi, je parlais avec des amis à New York de cette histoire-là, puis le pasteur à New York, il me disait, hey, ça serait fou que les Giants de New York qui ont gagné le Super Bowl deviennent les colombes de New York. Imagine-toi comment... It's awkward, ça sonne pas bien, ça file, ça. Mais aussi pour Dieu, pensez un instant ce soir, Dieu, le Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, qui a créé lui-même tous les animaux, de tout ce que Dieu aurait pu choisir, il a pris une colombe. Seigneur, t'aurais dû prendre un lion. Jésus sorti de l'eau, et un lion rugissant comme le lion de la tribu de Juda vient s'asseoir à côté de lui. Il se mit à rugir et le ciel s'ouvrit. Tout le monde comprit que Jésus est le lion de Juda. Mais, une colombe. Une colombe. T'as-tu déjà posé la question, pourquoi une colombe? Et j'ai commencé à réfléchir là-dessus. Et je ne veux pas réfléchir. Je ne pense pas qu'on découvre dans la Bible en réfléchissant. Je crois qu'on découvre par révélation de Dieu. Et alors que je cherchais la pensée de Dieu là-dessus, je vous dis vraiment ceci bien, bien, bien humblement ce soir. Je ne vous impose pas d'être d'accord avec moi, mais je suis profondément convaincu que le Seigneur m'a donné une révélation incroyable qui peut changer ta vie ce soir. Et c'est de ça que je veux parler rapidement. Premièrement, c'est une destination terrestre, la colombe. Elle nous montre une destination terrestre et elle nous montre une destination céleste. Une destination terrestre et une destination céleste. Bien, bien, bien simplement et bien rapidement ce soir. Retourne un instant au jour de la création. Qu'est-ce que ça dit? Quand Dieu créa le ciel et la terre, la Bible dit que la terre était informe et vide. Et le mot en hébreu, c'est un chaos. Comment on dit ça en français? Un chaos. Merci, ouais, c'était pas loin. Un chaos. Un vide. C'était les ténèbres. C'était chaotique. C'était ténébreux. C'était vide. C'était comme une détresse, c'était comme un désespoir total. Mais la Bible dit qu'alors que la terre était dans cet état de vide, de chaos, de détresse, de ténèbres, littéralement, la Bible dit que l'Esprit de Dieu était là. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur ce qui était chaotique. L'Esprit de Dieu se mouvait sur ce qui était vide, sur ce qui était complètement désespéré, sur ce qui était ténébreux. Alors que personne peut-être le voyait, l'Esprit de Dieu était là. Et voyez-vous, parfois, on peut regarder à des situations autour de nous, on peut regarder à des quartiers de Montréal autour de nous et dire c'est ténébreux, c'est vide, c'est chaotique, c'est le chaos total. Les autorités ne savent plus où s'y donner la tête, on ne sait pas quel est le programme qu'on doit amener, qu'est-ce qu'on va faire pour aider ces gens-là. Mais j'aimerais vous dire ceci, dans la situation la plus désespérée, l'Esprit de Dieu est là. Et il est là. Et la Bible dit « He was hovering », il était, Il faisait juste planer. Et Dieu ne fait rien pour rien. Quand l'Esprit de Dieu est là, il vient, c'est qu'il s'apprête à faire quelque chose. Je vais vous raconter des témoignages, hein, peut-être l'année prochaine quand je reviendrai, parce qu'ils sont trop frais pour l'instant. Mais une des premières choses que le Seigneur m'a demandé de faire quand on est arrivé sur la région, dans les cités où on travaille, c'était juste d'aller marcher. Aller marcher sur la rue. Je dis, Seigneur, pourquoi? Puis ça me disait, parce que moi, je suis là. Va marcher, va prier sur la rue. Et le Seigneur commence à toucher des gens. Des gens commencent maintenant à donner leur vie à Dieu. Après, tu arrives à un autre endroit très important. La Bible dit que le jour du déluge, alors que la terre était comme au jour de la création, il y avait des eaux partout. Et Noé est sorti sur son bateau. Et la Bible dit que pendant 50 jours, c'était le déluge. Et Noé est sorti, ça lui a pris de la foi à ce gars-là. Il est sorti sur son bateau et à perte de vue, c'était le désespoir. C'était des grandes vagues, c'était les eaux, c'était les nuages, peut-être que c'était gris. Et Noé s'est dit, mais où est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce qu'on va devenir? Je ne sais pas, sûrement que son cœur a dû serrer, il dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Partout où je regarde autour de moi, c'est le désespoir total. Et la Bible dit, marquez bien ceci, qu'il a pris une colombe. Ah, ça veut dire quelque chose pour nous, ça. Il a pris une colombe, il l'a lancée. Elle est partie, elle a volé, puis elle est revenue. Et Noé a été triste. Et voyez-vous, ça représente ce que l'Esprit de Dieu a fait dans l'Ancien Testament. L'Esprit de Dieu cherchait une solution pour le désespoir de l'homme. Comme Noé était désespéré, la colombe est allée chercher quelque chose pour lui. L'Esprit de Dieu, à travers tout l'Ancien Testament, a cherché un endroit où se poser. L'Esprit de Dieu a cherché un homme. C'est profond ce que je vous dis ce soir, mais je sais que même si tu es un adolescent, par la puissance de Dieu, tu peux comprendre ceci ce soir. L'Esprit de Dieu a cherché un homme, mais Moïse n'a pas été assez bon. David n'a pas été assez digne. Élie n'a pas été assez digne. Jérémie, Isaïe, les prophètes, personne n'était assez digne. Et partout à travers l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu, comme une colombe au-dessus des eaux, a cherché un endroit à aller. Et la Bible dit que quand Jésus est sorti de l'eau à son baptême, le ciel s'ouvrit et l'Esprit de Dieu descendit sur lui comme une colombe. J'aimerais vous dire ceci, les jeunes, ce soir. Je suis profondément convaincu que l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus au jour de son baptême comme une colombe pour nous montrer que Jésus est une destination pour notre vie. Je m'explique. Noé a relancé la colombe une deuxième fois, la Bible dit. La colombe est partie. Elle a volé. Puis elle est revenue et la Bible dit qu'elle avait une petite branche d'olivier dans sa bouche, dans son bec. Et quand Noé a vu ça, vous savez, Noé a dit, il y a de la terre. Il y a quelque part, il y a une montagne qui sort de l'eau. Il y a quelque chose, il y a de l'espoir. Il y a une place où on pourrait amarrer. Il y a une place où l'arche pourrait aller s'accoster. Et vraiment, il y a de la vie là-bas parce que c'est pas juste de la roche, c'est pas juste de la terre. Il y a quelque chose qui a poussé. Il y a quelque chose qui a germé. Il y a une nouvelle création. Il y a un nouveau départ. Il y a de l'espoir pour nos vies. Et littéralement, ce que Dieu est en train de dire à travers Noé, c'est une prophétie pour toi et moi. Les jeunes, j'aimerais te dire ceci ce soir. Le monde autour de nous, Dieu en a fini avec ce monde-là. Je vous dis ceci, marquez mes paroles. Ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre 20 jours. Mais le monde autour de nous, Dieu en a fini avec ce monde-là. La Bible dit que Dieu a déjà jugé ce monde-là dans Ésaïe 66. Vous lirez à la maison Ésaïe 66, 22, ça dit ceci. Que Dieu a les yeux sur la nouvelle terre. Que Dieu a les yeux sur les nouveaux cieux. Dieu en a terminé avec ce monde. Je ne suis pas en train de dire que maintenant, il faut que tu sortes d'ici, que tu es enfermé dans le bois, dans une cabane, puis tu attends le retour de Jésus. Non, on va continuer à vivre dans ce monde. Mais écoutez-moi bien. La première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu vis pour ce monde, si tu vis, même si tu es chrétien, même si tu es grandi dans une famille chrétienne, même si tu connais toute la Bible, j'aimerais te dire ceci, même si tu connais toutes les pages de la Bible par cœur, il y a quelque chose de très important qui doit prendre place dans ta vie. C'est d'arriver au diapason du cœur de Dieu, où tu dis, toi aussi, je ne veux pas vivre pour les choses de ce monde. Parce que quand Dieu regarde le monde, il voit le monde comme au jour de Noé. Il ne le voit pas comme nous on voit.
quand Dieu regarde la ville de Montréal, quand Dieu regarde la France où je vais travailler, quand Dieu regarde tous les plaisirs de ce monde, quand Dieu regarde tout le matérialisme et l'hédonisme de ce monde, Dieu voit comme un jugement qui est venu. Dieu voit comme une fin. Et j'aimerais te dire ceci. Jésus, présentement dans le monde, est comme la pointe d'une montagne qui sort. Jésus, le monde ne le voit pas encore au complet. Mais alors que l'eau a baissé de plus en plus, qu'est-ce qui est arrivé? La montagne a commencé à être révélée de plus en plus. Et la montagne est devenue une chaîne de montagnes. Et la montagne est devenue un continent. Et la montagne est devenue une terre sur laquelle Noé et toute la deuxième création à partir de Noé a vécu. Et j'aimerais vous dire ceci. Le jour où la colombe s'est posée sur Jésus, le Saint-Esprit est en train de dire ceci. Il y a une nouvelle création maintenant pour l'humanité. Le monde, j'en ai fini avec ce monde-là. Et maintenant, la nouvelle création, c'est mon Fils. Et quand le monde voit Jésus, il voit juste une petite pointe d'une montagne qui sort. Et j'aimerais te dire ceci, par exemple. Plus ça va aller, plus ça va se révéler. Et Daniel a une vision. Et Daniel a vu que c'est même une petite roche. Que personne... Daniel a vu comme une petite roche qui était insignifiante, qu'on kickait, une petite roche d'elle-même. Pour beaucoup de gens, Jésus, ça veut rien dire. Mais la roche revient, elle fait chuter tout l'empire, la Bible dit. Et la petite roche est devenue une montagne qui a rempli le monde. Jeune homme, jeune fille, ce soir, je te dis ceci, je ne te connais pas. Je ne connais pas la situation dans laquelle tu vis. Mais je sais une chose. Peut-être que tu es ici ce soir, que tu es dans un état de chaos. Ton cœur est vide. Ton cœur est chaotique. Ton cœur est triste. Peut-être qu'il y a des ténèbres dans ta vie. Peut-être que tu te bats avec des péchés. Peut-être que personne ne le sait, mais ça fait plusieurs fois que tu tapes sur le bureau quand tu fermes Internet parce que tu en as marre de regarder des saletés. Tu te dis, qui est-ce qui va venir m'aider? Qui est-ce qui va venir m'aider avec les ténèbres de ma vie? J'aimerais te dire ceci ce soir. Moi, je suis comme une petite branche qui t'amène un message et qui dit ceci, il y a de l'espoir pour ta vie. Tu peux être délivré de ton péché. Je vous dis ceci, les jeunes. Parce que j'ai été un adolescent chrétien qui a grandi dans l'Église. J'ai combattu avec des passions, avec des péchés. J'ai tout essayé. J'ai essayé de tenir la main de quelqu'un pour qu'il m'aide à ne pas tomber. Puis dès qu'il ne me regardait pas, j'allais pécher. J'ai tout essayé. Il y en a un seul. Il y a une seule destination pour ma vie. Puis il y a une seule destination pour ta vie. J'aimerais te dire ceci, jeune fille. Pendant plusieurs années, j'étais pasteur de jeunes. J'ai vu des jeunes filles se mettre comme destination en tête un jeune homme, une carrière, une indépendance financière. J'aimerais te dire ceci. Il y a une seule destination qui vaut la peine. Aux yeux de Dieu, toutes les autres ne sont même pas des destinations, c'est juste de l'eau. C'est juste comme la mer. Pour Dieu, il y a une seule destination pour ta vie, et c'est Jésus. C'est la seule. C'est la seule qui compte, c'est la seule qui peut te délivrer. Mais j'aimerais dire ceci aussi à des jeunes qui sont ici ce soir, qui sont chrétiens, qui aiment Dieu, mais qui ont toutes sortes d'autres destinations dans leur vie. Qui ont envie d'avoir une carrière, qui ont envie d'aller là, qui ont envie d'avoir une maison, qui ont envie d'avoir une auto. Et je vous dis ceci, je la connais la game. Je suis chrétien, mais j'aimerais vous dire ceci, les jeunes. Je vous parle avec amour, comprenez-moi bien, pas d'accusation, pas de condamnation. Je vous parle avec amour ce soir. Jésus, ce n'est pas un fétiche que tu peux mettre dans ta vie et qui va te porter bonheur. J'ai rencontré un pasteur à Paris. Sa vie était complètement changée parce que c'est un Africain. Puis les fétiches en Afrique, c'est très, très, très important. Puis il est allé avec ses fétiches à un examen d'université. Puis il était chrétien. Puis le Seigneur a dit, tu n'y vas pas avec les fétiches. Puis il a combattu dans son cœur toute une histoire. Il est allé avec ses fétiches, il a échoué son examen. Finalement, il est retourné sans ses fétiches, il a mis sa foi en Dieu, il a réussi ses examens, le Seigneur a béni sa vie. Mais on ne s'en rend même pas compte parfois. Mais pour certains jeunes, Jésus est un fétiche. Jésus est un porte-bonheur. Il est dans ma vie, là. Je vais à l'église, je lis un petit peu ma Bible, je prie un petit peu, je fais les petites affaires qu'il faut pour que ma vie soit bénie, pour avoir du succès, pour me rendre là-bas. Pour ma destination, c'est le succès, mais écoutez-moi bien, c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas d'avoir Dieu dans ta poche pour que tu réussisses ta vie. La vie chrétienne, c'est de mourir, l'apôtre Paul dit, de ressusciter par la foi en Jésus et de maintenant vivre pour Dieu. Un chrétien, ça vit plus pour lui. Un chrétien, ça vit pour Dieu. Et alors que tu vis pour Dieu, Dieu prend soin de toi. Écoutez-moi bien ce soir. Je vais vous parler avec mon cœur. On a quitté la France, on est venu ici pour cet été. Okay? On est des missionnaires, on vit par la foi, ma femme et moi. Et ma femme me dit, qu'est-ce qu'on va faire cet été? On n'a pas de voiture pour se promener au Québec. On n'a pas d'automobile. Puis j'ai dit, chérie, on ne perdra même pas notre temps avec ça. Elle me regarde, ah bon? Je dis, non. On vit pour Dieu. On vit pour les hommes, on vit pour les gens autour de nous. On vit pour les gens que Dieu met sur notre chemin. Je dis, on n'a même pas besoin de chercher notre auto. Attends, non, non. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume, et toutes ces choses seront données par-dessus. Je dis, on va croire qu'alors qu'on s'en va en vacances pour faire du ministère au Québec, en passant, Dieu nous a pourvus pour les billets, les 4 billets d'avion. Voyons donc, c'est quoi pour Dieu nous donner une auto? Ce soir, je vous parle là, j'ai 3 autos. J'ai rien demandé à personne. J'étais en France, j'ai reçu un email. Quelqu'un m'envoie un email quand j'étais en France, il me dit, Pasteur Christian, tu t'en vas au Canada, as-tu besoin de quelque chose? Je dis, non, tout va bien. Il me répond, t'es sûr que tu as besoin de rien? Je dis, oh, OK. J'ai dit, ben, on prie pour une auto. Plus de réponse. Ça. Une semaine après, hey, j'ai une auto pour toi. Paf, une autre auto. Paf, une autre auto. Alors, ce soir, si vous me voyez partir avec une auto, comprenez que ce n'est pas la mienne. C'est une belle voiture, mais qui m'a été prêtée. Et je suis profondément convaincu. Moi, je le vis, ça. Tu vis ta destination, c'est Jésus. C'est simple, hein? C'est tellement simple que ça me prend de la foi pour croire que vous allez comprendre. C'est tellement simple. Tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu dis, Seigneur, prends ma vie. Seigneur, je veux vivre pour toi. Seigneur, ma destination, c'est toi, Seigneur. Je vous dis ceci. Toutes les autres destinations, c'est de l'eau. Tu mets ton pied là-dessus, ça coule. La seule destination pour ta vie qui est du roc, c'est de vouloir vivre pour Jésus. Il y a une image qui va apparaître à l'instant maintenant. C'est une image qui est vraiment d'une valeur pour moi. Parce qu'en 1994, on ne peut pas vous dire c'est où. C'est un pays, c'est secret. C'est un des pays d'Asie centrale. Il y a une femme avec son mari qui marchait. Et tout ce qu'il disait, c'est très, très simple. Il n'y avait pas leur plan. Regardez-moi ici un instant. Oubliez l'image, regardez-moi ici un instant. Il y a des gens qui servent Jésus dans le royaume de Dieu pour leurs intérêts. Il y en a qui servent Dieu pour leurs intérêts. Je ne parle pas d'eux, moi. Je parle de servir Dieu pour les intérêts de Dieu. Pas amener tes plans, puis tes bagages, puis tes affaires, puis tes rêves. J'ai rencontré quelqu'un en France, puis la fille, elle vient me voir après une réunion, puis elle dit, « Pasteur, je rêve de servir Dieu. » Je dis, « Ah oui, c'est le fun. Qu'est-ce que tu rêves? » « Je rêve de faire ci, de faire ça. Je veux faire un album. J'ai créé le livre de ma vie. » Puis je dis, « Est-ce que c'est Dieu? » « Ah non, c'est moi, mais Dieu va bénir mes projets. » Non, Dieu bénira pas tes projets. Il faut que tu fasses ce qu'il te dit. Dieu a quelque chose pour toi. Puis tout ce qu'il te demande, c'est de mettre ta vie devant Dieu et dire, « Seigneur, je veux te servir. » Et Dieu va te conduire. Puis crois-moi, 100% du temps, c'est pas ce que tu pensais. C'est jamais ce que tu penses. Puis c'est très rare que c'est quelque chose que tu avais envie. Mais il y a une femme missionnaire qui se promenait dans un pays en Asie centrale en 1994 avec son mari. Puis elle avait vraiment donné sa vie à Dieu. Puis elle, sa destination, c'était Jésus. Elle a compris que dans le monde où on vit, toutes choses anciennes sont passées. Et maintenant, il y a une nouvelle création qui sort de l'eau. Il y a une nouvelle montagne qui est en train de sortir de l'eau. C'est Jésus. Comme au jour de Noé. Puis écoutez-moi bien, les jeunes. Ça prend de la foi pour marcher avec Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé comment est-ce que Noé a fait pour se rendre là? Il n'y avait pas de rame. Il n'y avait pas de voile. Dieu lui a donné un plan pour flotter, mais pas pour diriger. C'est fort, hein? Il ne pouvait pas diriger l'arche. Dieu n'a pas montré comment faire un moteur. Dieu n'a pas montré comment avoir des voiles à Noé. Puis Dieu n'a pas donné de rame au bateau. Dieu a dit, c'est moi qui dirige le bateau. Dieu a montré qu'il y avait une destination, il ne l'avait jamais lu, il ne l'avait jamais vu, mais il savait quelque part qu'il y avait une terre. On ne sait pas comment ce soir, mais on sait qu'il aboutit. Vous savez ce que je crois, moi? Moi, je crois que la main de Dieu a amené l'arche où il fallait. Et si tu dis dans ton cœur ce soir, je veux te servir, Seigneur. Moi, je suis profondément convaincu. Je ne suis pas venu faire un show, je n'ai pas le temps de faire des shows. C'est fini les shows. Le Saint-Esprit est en train d'agir partout dans le monde. Puis moi, je vais aller où ce qu'il va. Et Dieu est en train d'élever des jeunes partout dans le monde qui ont faim et soif de Dieu, qui veulent servir Dieu. À l'âge de 12 ans, dans une réunion comme ça ce soir, je me suis effondré devant Dieu. J'ai pleuré mon cœur au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je veux te servir. Et Dieu a entendu mon cri. Et c'est même lui qui avait mis ce désir en moi. Puis il y a des jeunes, vous êtes ici ce soir, même si vous avez 12 ans, vous voulez servir Dieu. Le Seigneur va vous diriger comme l'arche. Il va vous amener à la bonne place. Cette femme, en 1994, a marché. Puis tout à coup, elle est arrivée dans un quartier où c'était plein de blocs appartements, comme des cités. On dit en France comme des cités. Plein de blocs appartements abandonnés. Puis elle a dit à son mari, elle dit, c'est bizarre ça, que, comme plusieurs bâtiments abandonnés. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Puis peut-être qu'on pourrait faire quelque chose ici. Puis on commençait à entrer dans les bâtiments. Puis on a découvert des enfants. Elle dit littéralement des myriades d'enfants. Elle ne pouvait pas compter les centaines d'enfants abandonnés. Des enfants handicapés mentaux et handicapés physiques avaient été abandonnés là, probablement par l'État, qui ne mangeaient pas, qui n'avaient rien à manger. Certains mangeaient leurs excréments. Certains étaient dévorés par des vers qui leur ont monté jusqu'au cœur et les ont tués. Des jeunes qui avaient des plaies. Et des jeunes, ils étaient tellement nombreux que des enfants prenaient les cadavres des enfants qui mouraient, puis ils les plaçaient avec les autres cadavres, juste pour pouvoir être dans la pièce où ils étaient morts, pour pouvoir être abrités de la pluie, puis ils se mettaient ensemble pour se cacher de la chaleur. Et le Seigneur l'a amené là dans une situation complètement incroyable. Et tout ce que Dieu lui a demandé, c'est d'aimer ces enfants-là. Elle a commencé à les nourrir, elle a commencé à prendre soin d'eux comme on prend soin des petits-enfants, juste à les aimer. Comprenez bien ceci ce soir. Des enfants qui sont handicapés mentaux, tout ce qu'on peut faire, c'est on peut juste les aimer. Et ça fait 14 ans que tout ce qu'elle fait, elle les aime. Personne ne la connaît. Personne ne connaît son nom. Personne ne connaît son adresse. Elle n'a pas écrit un livre. Elle n'a pas fait des conférences mondiales. Elle ne va pas voyager partout dans le monde raconter son histoire extraordinaire. Mais alors qu'on parle aujourd'hui, le Seigneur est venu à son secours. Et différents ministères l'aident, dont un ministère qui nourrit tout. Il y a des enfants qui sont morts, mais ceux qui ont survécu sont nourris. Ils nourrissent 405 enfants à tous les jours. Maintenant, qui sont soignés, qui sont aidés, qui sont aimés. Vous savez quoi? Moi, je suis profondément convaincu que c'est comme au jour de Noé. Je suis profondément convaincu que tout ce que ça prend, c'est un cœur qui dit, Seigneur, sois, sers-toi de moi. Pas mes plans, pas mes affaires, pas ce que je veux moi, mais toi, Seigneur. Puis alors qu'elle marchait, puis elle se baladait, puis elle disait, Seigneur, sors-toi de moi. Le Seigneur l'a amené là où ce que lui voulait. J'aimerais te dire ceci ce soir. Toi, peut-être, tu as des destinations dans ton cœur. Toi, peut-être, tu as des places que tu veux aller. Mais Dieu ne nous suit pas. C'est à nous de suivre Dieu. Et si tu dis, Seigneur, moi, je vais aller où ce que toi, tu veux aller, j'aimerais te rassurer ce soir. La destination de Dieu est beaucoup mieux que la nôtre. Le plan que Dieu a pour ta vie est de loin incomparable au plan que toi, tu peux avoir pour ta vie. Une destination terrestre, et je termine avec ceci ce soir, une destination céleste. Pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu, donnez-moi 5-10 minutes, j'ai terminé. Pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu était-il si émerveillé par Jésus? Parce qu'il savait que dans quelques temps, Jésus allait mourir à la croix, qu'il allait ressusciter. Et suivez-moi bien ce soir. Qu'il allait se passer quelque chose dans l'histoire de l'humanité qui était impensable, qui était inimaginable, qui dépassait l'entendement même des anges. Quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. La Bible dit que quand Jésus est ressuscité, il avait encore un corps d'homme. Même il a dit, donnez-moi à manger, puis il a mangé devant eux pour leur montrer. Il a dit à Thomas, il a dit, mets tes doigts dans mes trous, mets tes doigts, regarde, je suis Dieu, mais je suis encore homme. Puis écoutez-moi bien, quand Jésus est monté au ciel, le ciel au complet, les anges du ciel ont été ébahis, renversés, parce qu'il s'est passé quelque chose qui ne s'est jamais passé de toute éternité. Jamais un homme n'avait monté dans le ciel. Jamais aucun être humain n'était monté au ciel pour se présenter devant Dieu. L'homme était séparé de Dieu. Et quand Jésus est ressuscité, qu'il est monté au ciel, Vous savez ce qu'il a fait? En allant dans le ciel en tant qu'homme, il t'a acheté quelque chose que tu ne pourras jamais t'acheter toi, par toi-même. Jésus est allé t'acquérir un droit légal. Et voici le droit légal qu'il a pris pour ta vie. C'est une logique de Dieu. Si un homme est monté dans le ciel, parce que Jésus a dit ceci, la Bible dit que le Saint-Esprit n'était pas encore là quand Jésus prêchait sur la terre. Le Saint-Esprit n'avait pas encore été répandu. Le Saint-Esprit n'était pas encore... Le Saint-Esprit était omniprésent, mais il n'était pas manifesté partout. Il était partout, mais il n'était pas manifeste dans le monde. C'était Jésus qui avait la puissance de Dieu. Et Jésus a dit, « Il est préférable pour vous que je m'en aille au ciel. » Et quand Jésus s'est présenté devant Dieu dans le ciel, la Bible dit qu'il a demandé à Dieu que toi aussi, tu puisses recevoir dans ta vie l'Esprit de Dieu. La Bible appelle un esprit de sagesse, une puissance pour ta vie, la pensée de Dieu pour ta vie, les sentiments de Dieu dans ta vie, une transformation de Dieu dans ta vie, et même une puissance pour que toi aussi, tu puisses servir Dieu et que Dieu puisse passer à travers toi pour que des vies soient touchées pour Dieu. Maintenant, écoute-moi bien. Parce qu'un homme est dans le ciel, maintenant et seulement maintenant, le ciel au complet peut venir dans un homme. Voici le droit légal que Jésus nous a acquis à la croix en ressuscitant et en montant au ciel. Et le Saint-Esprit a dit, « Hey, il y a un homme maintenant ici dans le ciel. Eh bien maintenant, moi, je peux aller dans l'homme. Parce qu'il y a un homme dans le ciel peut venir dans l'homme. » N'est-ce pas merveilleux? Et comment est-ce qu'on peut recevoir l'Esprit de Dieu? La Bible dit simplement deux choses. De le désirer, d'avoir faim, d'avoir soif de Dieu. De le demander et de croire. De le chercher, de venir dans sa présence. Et je crois vraiment qu'il n'y a aucune autre façon. Un ami à moi, qui est aujourd'hui pasteur de jeunes à Times Square Church à New York, travaille avec des centaines de jeunes, à peu près 1000 jeunes à chaque semaine qui viennent et qui s'approchent de Dieu. Et j'étais dans le bureau avec lui, puis sa secrétaire était là, puis il me disait, « Tu connais-tu le témoignage de ma secrétaire? » Je dis, « Non, je ne connais pas le témoignage de ta secrétaire. » Il dit, « Elle était adolescente, abusée sexuellement dans une famille, beaucoup de souffrance. Et dans son désespoir, dans ses ténèbres, dans son chaos, dans son vide, elle s'est assise sur le bord de sa fenêtre à New York, à son appartement, et s'est jetée en bas. Puis alors qu'elle s'est jetée, elle a senti une force comme une main. Elle a repoussé, puis elle s'est retrouvée. Elle est revenue dans son appartement. Puis si vous ne me croyez pas, là, je vais vous donner son numéro de téléphone, vous l'appellerez vous-même. Elle s'est retrouvée dans sa fenêtre, puis elle est tombée à l'intérieur. Puis elle a entendu la voix de Jésus dans son cœur à l'appeler. Puis elle a donné son cœur à Jésus. Le Seigneur a complètement transformé sa vie. Aujourd'hui, elle sert Dieu à plein temps. Pourquoi? Parce que des gens, comme son pasteur de jeunesse et d'autres, qui ont su cette chose. J'ai un droit légal. J'ai un droit légal. S'il y a un homme dans le ciel peut venir dans mon cœur. Il y a une puissance qui peut venir dans ma vie pour que des vies soient touchées, pour que des cœurs soient transformés. Et je te dis ceci, jeune homme, jeune fille. Tu retournes à l'école, mauvaise nouvelle. Tu retournes à l'école dans quelques semaines et il y a des jeunes autour de toi qui ont besoin de Jésus. C'est une joie pour moi de venir à chaque été, à chaque année, de rencontrer des jeunes, de revoir des mêmes visages, de revoir des jeunes qui sont encore là. Mais je vous dis ceci, il y a une joie encore plus extraordinaire. C'est de revenir peut-être dans un an, et j'ai terminé, je vais inviter les musiciens à s'approcher, je vais inviter Emmanuel à s'approcher. C'est de revenir l'année prochaine et qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Comme cette jeune femme à New York qui a une Louisvette à côté de toi, qui a donné son cœur à Dieu, parce que toi, tu es allé chercher une puissance de Dieu. Et Jeanne, le Seigneur est en train de répandre son esprit dans le monde entier. Dans le monde entier, il y a des jeunes qui sont en train de se lever pour servir Dieu. Et toi? Toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retourner sur la Wii? Sur ton PSP? Sur Internet? Tu vas perdre ta jeunesse. Tu pourrais vivre ta jeunesse pour Dieu. Tu vas paranoïer sur avec qui tu vas te marier. Hey, come on! Il y a tellement mieux que ça. Il y a tellement plus merveilleux que ça. Et moi, je vais t'inviter ce soir. Je vais demander à tout le monde de pencher la tête, de fermer les yeux. Je vais faire un appel ce soir. Hallelujah. C'est profond ce que j'ai dit, mais je sais que par l'Esprit de Dieu, tu peux comprendre ce soir. Le Saint-Esprit est venu sur Jésus comme une colombe pour nous montrer que Jésus est la destination de notre vie. Il est une destination. Il doit être un désir dans nos cœurs en tant que jeunes pour Dieu. Il doit y avoir un désir dans ton cœur de vivre pour Jésus, d'aller vers Jésus, de tout donner à Jésus. Hallelujah. Peut-être je veux vraiment, vraiment tout doucement, s'il te plaît, ce soir. Je ne veux pas te gêner ce soir, je ne veux pas t'exposer. Mais peut-être qu'il y a un jeune qui est ici ce soir et tu dis, lorsque je regarde dans mon cœur, c'est comme au début de la création. Lorsque je regarde dans mon cœur, c'est comme au jour de Noé. Il y a un vide dans mon cœur. There's a void. La terre était informe et vide. Peut-être moins fort, s'il te plaît. Lorsque je regarde dans mon cœur, c'est comme si ma vie est informe. C'est comme si ma vie n'a pas de sens. C'est comme s'il y a un vide. C'est comme si c'est le chaos dans ma vie. Il y a comme des ténèbres dans ma vie. C'est tellement simple ce que je te dis ce soir. Mais l'Esprit de Dieu vient vers toi avec une petite branche. Un message simple. Il te dit, relève la tête, il y a de l'espoir. Il y a un nouveau départ pour toi. Il y a une autre destination pour ta vie ce soir. Cette destination, c'est quelqu'un. C'est comme une montagne qui sort de l'eau. La Bible appelle Jésus comme un rocher sur lequel tu peux bâtir ta vie. Et si tu es ici ce soir, je ne veux rien forcer, mais si tu es ici ce soir, c'est toi ça. C'est exactement mon état. J'aimerais que tu puisses lever la main, je ne veux pas te gêner, je ne veux pas que personne regarde autour. C'est un moment très, très important entre toi et Dieu seul. Alors que tout le monde a la tête penchée, les yeux fermés, que personne ne regarde par respect. Tu es ici ce soir et tu dis, ça c'est l'état de mon cœur ce soir. J'aimerais que tu puisses prier pour moi, pasteur. J'aimerais juste que tu lèves ta main, je veux prier pour toi. Je ne veux pas te gêner. Merci pour ta main, merci pour ta main, merci, merci. Hallelujah. Hallelujah. Merci pour ces mains qui se lèvent. Le Seigneur voit l'état de ton cœur ce soir. Peut-être que tu es ici ce soir, et comme Noé, qui regardait à droite et à gauche, n'avait pas de direction, ne cherchait une destination. Pour ceux qui ont levé la main, vous pouvez la baisser, merci. Mais peut-être qu'il y a des jeunes qui sont ici ce soir, et vous cherchez une destination, tu cherches un plan pour ta vie. Tu dis, Seigneur, où est-ce que tu me veux, Seigneur? C'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie? Hallelujah, j'aimerais prier pour toi. Tu es ici ce soir et précisément, tu cherches la volonté de Dieu pour ta vie. J'aimerais que tu puisses lever la main, je vais prier pour toi ce soir. Hallelujah. Ce soir, le Seigneur ne te dit pas ce que tu veux entendre. Le Seigneur, ce soir, te dit que la destination, c'est premièrement son Fils. La destination, c'est premièrement d'aller vers Jésus. C'est la première destination. Hallelujah. 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 Et je vais faire un appel en terminant pour tout le monde. Je demande à tout le monde de se lever. Je ne vais pas vous gêner, je ne vous connais pas, je ne sais pas de quelle église vous venez. Mais j'aimerais qu'on puisse prendre un instant ce soir pour placer nos cœurs devant Dieu. Hallelujah. Pour dire, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint, Seigneur. Remplis-moi de ton Esprit, de l'Esprit de Dieu. Hallelujah. Je vais ouvrir ici le devant de l'église à un moment de prière ce soir. Hallelujah. C'est des jeunes que vous êtes ici. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. J'aimerais consacrer cette soirée à un moment de prière ce soir. Hallelujah. Hallelujah. J'aimerais t'inviter ce soir. Prends ta liberté. Sors de ta place maintenant. Viens ici devant. Et dis-moi, Seigneur, je vais prendre un instant avec toi, Seigneur. Seigneur Jésus, je veux que tu sois ma destination, Seigneur. Je reconnais, Seigneur, que l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus. comme une colombe pour me montrer que Jésus doit être la destination de ma vie. Que Jésus doit être le rocher de ma vie. Que Jésus doit être la montagne où je dois bâtir ma vie. Que Jésus est la nouvelle création de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Dans les derniers jours où nous vivons, Dieu élève des jeunes hommes et des jeunes femmes qui vont faire des choses extraordinaires. Pas par leur force, pas par leur mérite, mais par l'Esprit de Dieu. Hallelujah. Et si tu as faim de Dieu ce soir, avance-toi. Ou si tu veux rester à ta place, il n'y a pas de problème, reste à ta place. Mais prends un moment pour t'approcher de Dieu. Hallelujah. 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 Commence à dire, Seigneur, Seigneur, remplis-moi de tes eaux vives, Seigneur. Remplis-moi de ta présence ce soir, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Maintenant, sans gêne. Hallelujah. Élève ton cœur vers Dieu. Élève ta voix vers Dieu ce soir. Si tu as faim, si tu as soif de Dieu, dis-lui, Seigneur, sers-toi de moi ce soir. Hallelujah. Hallelujah.